Bonjour à tous. C'est un peu difficile de prendre la parole suite aux cantiques qu'on a chantés, qu'aux prières qu'on a adressées à Dieu. On va tout simplement ce matin faire un rappel de tout ce que nous avons chanté, tout ce qu'on a dit, tout simplement. On va faire un résumé rapidement de si on arrive à un dernier volet sur le livre de Ruth. Et ce qu'on a pu voir, Ruth, une femme de valeur. Elle qui a suivi les instructions de Noémie, ces deux femmes ont tout perdu, ces deux femmes sont devenues pauvres, et elles devaient être rachetées. C'est une notion, c'est un mot qu'on a employé à la fois dans les chants et dans nos prières. C'était la tradition de l'époque en Israël, parce quand quelqu'un est devenu pauvre, devait être racheté. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir ce matin dans le chapitre 4 du livre de Ruth. On va lire tout le chapitre et ensuite on donnera quelques applications à ce sujet. Ruth chapitre 4, à partir du verset 1. Boaz était monté à la porte et s'y était assis. Or, voici que celui qui avait le devoir de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche-toi, assieds-toi ici, toi et un tel. » Il s'approcha et s'assit. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat, « Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. » Et moi j'ai pensé t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi, que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir. Je ne l'ai qu'après toi. Il répondit, c'est moi qui rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Noémie, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme d'un défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le devoir de rachat répondit, « Je ne peux pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. » Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, on notait sa sandale et on la donnait à l'autre. Et cela servait d'attestation en Israël. Celui qui avait devoir de rachat dit donc à Boaz, « Fais l'acquisition pour ton compte. » Et il ôta sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kilion et à Malon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères de la porte de la ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. » Que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui, toutes deux, ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péret que Tamar enfanta à Juda. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et elle alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Noémie. » Elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est celui-là le père d'Isaïe, père de David. Et voici la descendance de Péret. Péret engendra Estron, Estron engendra Ram, Ram engendra Aminadad, Aminadad engendra Nachshom, Nachshom engendra Salma, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Voilà la lecture du texte. Et c'est facile un petit peu, après la lecture de ce texte, de découper un petit peu en trois grandes parties ce chapitre. La première partie, ça traite un petit peu du rachat, le rachat que Boaz effectue envers Noémie et Ruth. Il nous montre un petit peu toute la procédure, comment Boaz finalement s'y prend pour racheter Ruth et Noémie. La deuxième partie nous montre plus le mariage et les conséquences qu'implique ce mariage entre Boaz et Ruth. Et enfin, la dernière partie, elle révèle un petit peu la généalogie de David. On apprend que Ruth sera l'arrière-grand-mère de ce roi remarquable. Et cette généalogie nous permet à la fois de tirer l'histoire entre la période des juges et celle qui va suivre, c'est-à-dire la période des rois. Ce matin, on va essayer de nous concentrer sur cette notion de rachat et de mettre un petit peu brièvement à la lumière des Écritures cette notion. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le livre de Ruth, les mots rachat, racheté, rédempteur apparaissent 20 fois. Et dans le chapitre qu'on vient de lire ce matin, ils apparaissent 13 fois. Donc c'est quand même assez important et c'est un grand sujet. Ça mérite un petit peu notre attention. Suite à tout ça, on tirera quelques applications pour nous aussi concrètes sur ce sujet vaste et on n'aurait pas le temps ce matin de tout dire. Dès le premier verset, on voit Boaz monter à la porte pour effectuer justement le rachat envers Ruth. Il monte à la porte et on voit en fait, Boaz, on a un peu vu tout au long de ces semaines, un homme remarquable. Un homme qui ici, là, prend à cœur ses responsabilités, sa responsabilité de proche parent, celui qui devait justement exercer le rachat envers de ces personnes qui étaient pauvres. Nous avons ici aussi un modèle du Seigneur Jésus et un exemple de vie aussi à imiter concernant nos devoirs, que ce soit des devoirs familiaux, que ce soit nos devoirs en tant que citoyens. On a tous des responsabilités, des devoirs quotidiennement à faire, si je puis dire. Même en tant que membre de l'Église, on a des devoirs, des responsabilités à prendre. Là ici, Boaz monte à la porte de la ville. Il faut savoir que la porte de la ville, c'était l'endroit où on exerçait la justice et le jugement. C'était un petit peu le lieu où on rassemblait justement les anciens de la ville et on essayait de répondre aux exigences de la loi. C'est un petit peu aujourd'hui, si on voulait publiquement se marier, on va à la mairie, on publie les bans et on se marie aussi à la mairie le jour J. La porte de la ville, c'était un petit peu ça, où on exerçait, c'est ici qu'on exerçait le jugement. Et d'une certaine manière, Christ aussi est monté à la porte de la ville comme Boaz. Et est allé sur la croix. C'était le lieu du jugement. C'était l'endroit où Christ allait répondre et allait répondre de manière efficace aux exigences de la loi concernant notre rachat. De nous libérer finalement de nos péchés. Mais pour qu'un rachat soit légal, il doit également être satisfaisant. C'est-à-dire en quelque sorte qu'il doit contenter celui qui procède au rachat. Ici on parle de Boaz. S'il ne contente pas Boaz, ce rachat, s'il n'est pas content de ce rachat, ça serait tout simplement une violation de la loi. Pourquoi ? Parce que un proche parent qui exerçait le devoir de rachat, était à la fois dans l'obligation de racheter, mais il devait être à la fois prêt et libre à racheter. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'était ça. Sinon, comme on le voit au verset 7, on se prêtait à la cérémonie du déchaussement. On ôtait sa sandale et on donnait à une autre personne qui était de la famille, qui était, elle, prête à racheter. Et c'est un peu la même chose aussi avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, lorsqu'il rachète beaucoup d'hommes par le sacrifice de Christ. Notre Dieu est un Dieu saint, un Dieu parfait, également aussi dans sa justice et dans sa moralité, et il donne justement volontairement son Fils sur la croix. Première partie, il donne volontairement son Fils sur la croix pour effacer l'acte qui était rédigé contre nous. Mais à contrario, le Fils, lui, de manière parfaite, se soumet à cette décision, et c'est avec une obéissance aussi parfaite qu'il va monter sur la croix pour porter le péché. De ce fait, Dieu est complètement satisfait de ce rachat. Un autre exemple aussi de rachat, et ça nous l'a été un petit peu précisé dans la prière de Patrice. Christ a opéré un, enfin, Boaz effectue un rachat là très précieux. Précieux pour Ruth. Ruth, il n'avait pas du tout honte de Ruth. Ruth, si on se souvient bien, c'était une Moabite. Moabite, c'était un peuple ennemi de Dieu. Boaz, il n'a pas eu honte de cette femme qui était complètement pauvre et qui était complètement aussi étrangère aux alliances d'Israël, aux alliances de Dieu. Et cette femme-là ne pouvait pas se racheter. Mais Boaz, cet homme riche, d'une certaine manière, en montant à la porte de la ville, il s'abaisse vers elle pour lui faire partager son héritage. Et là encore, on pourrait faire le lien assez très proche avec celui de Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre, il est monté sur la croix, il est venu aussi pour les pauvres, il est venu pour les malheureux, les aveugles, les misérables, les boiteux de la vie, nous invitant à rejoindre et à partager ses noces. Et si dans cette liste on s'est reconnu, eh bien on est tout simplement les plus heureux et les bienvenus pour partager tout ça. Comme Ruth, on était étrangers, on était ennemis à Dieu. Et Christ, lui, il n'a pas eu honte de nous. Il n'a pas eu honte de porter sur ses épaules le poids de tous nos péchés. Nous avons à ses yeux une très grande valeur. Et on l'a chanté aussi. On l'a dit aussi dans nos prières. Christ n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, ses sœurs. Et on l'a, dans la prière qui a été dite, la méditation d'André, on voit bien que d'un grand amour, Christ nous a aimés. C'est d'un grand amour que Christ nous a aimés. Il nous appelle ses frères, ses amis, à la seule condition, c'est que nous fassions ce qu'il nous commande. Alors on vient de voir un peu rapidement et brièvement le rachat qu'effectue Boaz envers Ruth. Et on voit bien que ce rachat préfigure aussi le rachat de Christ. On pourrait multiplier les exemples dans ce texte. Mais Christ, en s'offrant volontairement en sacrifice sanglant pour Dieu, il est venu accomplir parfaitement la rédemption. Alors la rédemption, c'est-à-dire qu'il est venu nous délivrer de la mort et du péché. Et ça aussi, ça a encore été rappelé ce matin dans nos prières. Quelques questions. Est-ce que nous avons déjà remis notre vie entre les mains de Christ ? Est-ce que nous sommes déjà aussi approchés de lui ? Sur la croix, Christ a remporté aussi la victoire sur le monde, sur le péché, sur Satan, sur la mort. Et il partage cette victoire. Mais pour que cette victoire soit efficace dans notre propre vie, la parole de Dieu nous invite tout simplement, c'est très simple, à croire que Christ est le Fils de Dieu. Et ça s'appelle la foi, enfin en tout cas c'est la Bible qui le dit, 1 Jean chapitre 5 verset 4. Ça s'appelle la foi, croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est des choses simples qu'on rappelle ce matin. Mais la foi, ce n'est pas une expérience émotionnelle qui nous conduit dans un état d'exaltation. Non, enfin, en tout cas ce que la Bible dit, la foi est simplement la réponse à notre écoute de la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas une question de compétence, mais de certitude. Hébreux chapitre 11. La foi n'est pas une question de mérite, mais elle nous a été donnée pour surmonter, il est vrai, si nous traversons des difficultés et des épreuves, ou bien que nous en traversons même en ce moment, elle nous a été donnée justement pour surmonter toutes ces choses. Et nous sommes chaque jour conviés, invités à marcher par la foi. Ça devrait être notre quotidien et pas seulement de temps en temps, tous les jours. Marcher par la foi, c'est apprendre aussi à marcher avec le fruit de l'esprit. On connaît tous le verset de Galates qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, ça fait un paquet de monde sur la route, je ne sais pas si vous savez. Ça fait beaucoup de monde. C'est marcher par la foi, c'est apprendre à marcher avec le fruit de l'esprit. Christ nous a acquis une grande délivrance. Je suis désolé, je vais me répéter, mais ça a été encore dit dans nos prières ce matin. D'esclaves que l'on était, on est devenu libre. Et je crois que quelqu'un a mentionné cette liberté dans la prière. Yveline, pardon. Mais La semaine dernière, je ne sais pas si vous savez, mais c'est sorti au cinéma un film. Alors, excusez-moi mon anglais, je ne suis pas très bon. 12 Years a Slave. Alors, je ne sais pas, quelqu'un peut-être l'a vu, mais ça parle de l'esclavage. Enfin, plus précisément, ce film, il est tiré d'une autobiographie d'un homme qui s'appelle Solomon Northup, et il présente un petit peu sous ses différentes formes la violence physique et morale qu'a subi ce jeune homme noir forcé de travailler pour des maîtres cruels. Ce film aussi, il nous présente un petit peu des personnes qui étaient d'origine africaine, qui ont connu l'esclavage à la fin du XVIIIe siècle. Ces personnes-là ont beaucoup souffert de cet asservissement. Dans notre société aussi actuelle, il existe différentes formes d'asservissement qui nous font plus ou moins souffrir, aussi en tant que chrétiens, un asservissement spirituel notamment. Depuis Adam jusqu'à maintenant, la condition de l'homme, et ça on le sait, se traduit par notre asservissement à un maître cruel qui est le péché. Et comme le dit un auteur inconnu, une définition très brève du péché d'Adam, une pomme de poire et beaucoup de pépins. Mais minimiser le péché dans notre vie, c'est négliger les conséquences qui en découlent, c'est-à-dire la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle. Notre rachat se trouve en Christ. Son sang, et ça nous l'a été encore rappelé ce matin à la Sainte Cène, est le moyen par lequel nous avons la rédemption, c'est-à-dire la délivrance de nos péchés, de la mort, et la rédemption est le moyen par lequel Dieu peut nous justifier sans porter atteinte à sa propre justice. Pour être très, très court et très bref, on l'a redit, ce rachat nous rend libres. Mais c'est assez étrange, bizarre cette notion-là. Parce qu'on a été à la fois racheté et libéré, mais notre liberté signifie selon la Bible, asservissement. Asservissement à Dieu. L'invitation et l'appel qui nous est adressé suite à cette liberté est de manifester un amour sans mesure envers notre Dieu et envers notre prochain, jusqu'à même être serviteurs les uns des autres au sein même de l'Église. Et il peut parfois nous arriver, envers un frère ou une sœur en Christ, de manquer de patience, de manquer d'amour, de bienveillance. Dans ce cas-là, bien rappelons-nous deux choses. La première, Christ est mort aussi pour cette personne-là et que l'on va passer l'éternité ensemble. Ça peut nous faire sourire, mais c'est vrai. Et la deuxième, c'est que la parole de Dieu nous demande d'être son esclave. Je préfère le redire parce que peut-être qu'on pourrait dire « je me suis trompé ». Non, la parole de Dieu nous demande d'être son esclave. Parce que la traduction grecque dans nos Bibles par le mot « serviteur » veut plutôt dire « esclave ». Et pour reprendre un petit peu les termes de l'apôtre Paul, nous avons été, frères, vous avez été, mais on va s'inclure, nous avons été appelés à la liberté. Seulement ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyons serviteurs plus que ça. Soyons esclaves les uns des autres. Si chacun pouvions vivre de cette manière-là, sans intérêt égoïste, l'abolissement des querelles, de l'animosité, des médisances, des conflits, des jalousies au sein même de l'Église. Et c'est de l'Église dont on parle. L'abolissement de toutes ces choses serait une réelle et véritable bénédiction pour chacun d'entre nous. Question ? Sommes-nous prêts à vivre la liberté que Dieu nous appelle à vivre ? Bien que le rachat signifie la fin du règne du péché, il est le commencement d'une nouvelle vie et le déclenchement d'une vie sanctifiée où chaque jour on apprend à marcher un peu plus avec le Seigneur, à marcher dans la sainteté, à devenir des hommes et des femmes qui grandissent en sagesse et en maturité. Suite au rachat que Boaz effectue envers Noémie et Ruth, dans le texte qu'on vient de lire, les anciens étaient témoins de cette procédure. Ils ont béni l'acte de Boaz. Et cette bénédiction que prononcent les anciens de la ville est à la fois une prière pleine de foi et d'espérance pour Ruth, pour Boaz et pour leur couple aussi. Pour Ruth, elle qui était, on l'a dit, étrangère aux alliances de Dieu, les anciens la bénissent pour qu'elle devienne féconde. La gloire, la richesse, la puissance sont demandées aussi à Bose, enfin sont demandées à Dieu pour Bose, et ses anciens prient aussi pour leur futur foyer qu'ils vont former. Ils demandent la postérité de ce couple pour que ce couple soit plus nombreux que la maison de Pérette. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ce monsieur? Alors on sait, c'est peut-être le fils de Judas et Tamar, parce que ça nous a été dit dans la prière, mais on sait pas, enfin, on n'a pas trop de choses qui sont dites dans la Bible, mais on a des petites choses, notamment dans les livres qu'on n'aime pas trop lire. Nombre. Lors du recensement de... après la sortie d'Égypte, Moïse a recensé toutes les tribus, et on arrive à la tribu de Judas, et ici on a la mention Judas, et on a la famille de Pérette. Et dans cette famille-là, il faut savoir que dans tout Israël, c'était la famille la plus nombreuse. Donc, en Israël, quand on bénissait pour la famille qui soit aussi nombreux que Pérette, ça voulait dire beaucoup de choses. Nous, ça ne nous parle pas trop, mais ça voulait dire beaucoup de choses. Ces hommes, cette prière, elle est extraordinaire, elle est faite par la foi. Et on peut voir aussi que Dieu a répondu à cette prière. Bon, certes, Ruth n'a eu qu'un fils, enfin, en tout cas, qui nous est mentionné dans la Bible. Mais la lignée qui a suivi les Ruth, on voit David, un roi remarquable, puis la venue du Messie aussi. Les conséquences du rachat de Bose nous montrent quelle fin aussi il donna à Noémie, à Ruth et à Bose. Or souvent dans les contes de Walt Disney, désolé pour mes références, on a la princesse qui vit une vie paisible, lui arrive quelques péripéties, puis le dénouement de l'histoire se fait par le prince charmant assis sur son cheval, souvent blanc. Et puis on a cette fameuse phrase qui dit « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Le livre de Ruth commence par 3 enterrements. Il se finit aussi, c'est vrai, par un mariage. Ruth a eu un fils, et étonnamment, le nom de ce fils a une signification particulière. Il s'appelle Obed. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Obed ? Serviteur. Tiens, ça ne dit pas quelque chose. Soyons serviteurs les uns des autres. Individuellement parlant, nous sommes tous serviteurs du grand roi des rois, le Seigneur Jésus. Encore faut-il parfois que nous fléchissons le genou et que nous le laissons régner dans notre vie. Mais collectivement parlant aussi, nous sommes serviteurs les uns des autres en tant qu'Église, en tant que corps et épouse de Christ. Une question, est-ce que nous sommes prêts à nous encourager mutuellement, à partager les bontés, les bienfaits que Dieu nous a accordés en Christ ? Alors c'est vrai que dans le chapitre 4 qu'on vient de lire, on a très peu vu et parlé de Ruth. Pourtant, on étudie cette personne. Ruth, qui préfigure un petit peu l'Église, dans ce chapitre 4, alors le chapitre 2, chapitre 3, elle est à fond, en action tout le long. Chapitre 4, on la mentionne que de temps en temps, elle se fait même très discrète. On parle beaucoup de Bose. Bose qui préfigure le Seigneur Jésus. Mais deux choses sont à mettre en évidence. La première, c'est que c'est Bose qui procède au rachat. La deuxième, Ruth n'est pas actrice de ce rachat, mais tout simplement bénéficiaire. De ce fait, le rachat n'est pas pour l'honneur de Ruth, mais de celui qui exerce ce droit, c'est-à-dire Bose. Et encore une fois, j'aimerais que nous essayions de voir que nous avons une merveilleuse image de Christ, qui nous a fiancés à lui et qui reviendra aussi chercher son épouse. Ça a encore été dit dans les prières. On ne fait que rappeler finalement toutes les prières qui ont été adressées ce matin. C'est un rappel. Christ viendra chercher son épouse. Quand on lit le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, alors c'est vrai, ça peut parfois nous effrayer, mais pourtant ce livre nous a été écrit pour nous encourager. On s'aperçoit très vite que celui qui est mis à l'honneur, c'est Christ qui a racheté l'Église, et non l'Église. Si l'Église a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est parce que Christ a opéré son rachat. Et pour reprendre un petit peu le diaporama de la première page, on avait mis en grand titre « Ruth, une femme de valeur grâce à Bose ». Si Ruth est une femme de valeur, c'est parce que Bose a effectué son rachat. En plus d'être une fin heureuse et honorable, L'histoire de Ruth nous montre qu'il y a énormément d'espoir, mais même au-delà de ce qu'on peut imaginer, pour quiconque désire venir à Dieu ou bien revenir à lui. Cette histoire est également pleine d'espérance pour tous ceux et celles qui se confient en Dieu, en Christ. Alors c'est vrai qu'il peut être parfois assez difficile de comprendre, de cerner correctement ce qu'on appelle la providence de Dieu. Elle reste pour nous assez mystérieuse, surtout quand on se réfère à la souffrance. Et ce matin, en fait, sur un feuillet de calendrier, je suis tombé sur ça. Alors je vous le lis tout simplement. Hein. C'est Monsieur Champedal qui a écrit. Il est indéniable que parfois, d'impénétrables mystères nous assaillent. Alors, nous nous débattons dans la nuit. Nous ne comprenons plus, l'épreuve est là, imprévisible. C'est un accident terrible qui nous prive de la présence d'un bien-aimé. C'est une maladie pernicieuse qui mine la santé d'un membre de notre famille. C'est un problème de vie lancinant qui brise nos énergies et nous jette dans une situation grave. Que faire ? Aux précieuses paroles qui nous donnent la réponse. Dans une situation désespérée, le peuple de Juda, incapable de s'en sortir par ses propres moyens, tourna ses regards vers l'Éternel. Et la frayeur disparut, la confiance revint, la délivrance aussi avec la paix intérieure. Et le verset qui était mentionné, c'était dans 2 Chroniques au chapitre 20. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est vrai que quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, très vite, on voit que Dieu n'a pas promis, alors comme le dit un cantique, hein, que des cieux bleus, que des chemins tout tracés, mais Dieu n'a pas promis que ceux qui croiront en lui échapperaient aux afflictions. Mais pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, ces afflictions sont toujours suivies de promesses. Et ce matin, notre frère Denis en a lu une dans les psaumes, verset 40, chapitre 40, verset 1, mais j'aimerais vous en lire une autre dans les psaumes aussi. Psaume 34, le verset 19. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Sérieusement, qui aurait pu imaginer que dans l'histoire, dans une situation aussi critique que la période des juges, chacun faisait ce qu'il voulait, avec une famille complètement déchirée par le deuil, par la souffrance, par la pauvreté, qui aurait pu imaginer un seul instant que Dieu était en train de préparer la venue du Messie, et même encore plus que Dieu était en train de travailler au sein même de cette famille pour que chacun puisse tirer profit d'une très grande joie. Noémie, qui revient d'Israël quand elle part de Moab, revient amère de la vie. Chapitre 4, on vient de lire, Noémie devient comblée, elle est comblée. Elle n'a pas manqué, comme il l'est dit, d'un rédempteur. Ruth, étrangère à tout ça, elle qui s'était mariée, qui n'avait pas eu d'enfant avec son mari, Boaz l'épouse, c'est bien marqué, c'est Dieu. Dieu conduit encore toute chose. Dieu permit la conception d'un enfant, Obed. Et le couple Boaz et Ruth se fait un nom dans la lignée du Messie même. Ben, sincèrement, quand on voit l'issue finale de cette famille, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire avec nos faiblesses. Cette fin merveilleuse nous encourage à ne pas sombrer justement dans le découragement ou dans le désespoir si on tombe ou si on traverse des épreuves. Car nous devons savoir que le Dieu que nous révérons est un Dieu qui travaille notre cœur afin de nous donner un avenir fait d'espérance. Et en conclusion, tout simplement un verset de l'apôtre Paul, le livre de Ruth nous a été donné afin, comme le dit l'apôtre Paul, que nous considérions pour notre instruction tout ce qui a été écrit d'avance et que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de l'espérance, justement, nous remplisse de toute sa joie, de toute sa paix, dans la foi, et que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu seul. Amen.